L'association Chagartea a été créée en 1990 pour retrouver les variétés locales de pommes à cidre et couteaux d'Iparralde. Dans cette conférence, Gabriel Durruti présente le travail de l'association qui récolte des greffons, organise leur multiplication en pépinière et leur commercialisation pour des porteurs de projets de vergers ou des particuliers. Elle constitue ensuite des fiches techniques par variété avec des descriptions détaillées de la pomme mais aussi des données plus techniques. C'est cette méthodologie qui est présentée dans cette conférence donnée à Irisari en septembre 2025. Nous écoutons Gabriel Durruti.
Mais on arrive en 94 à faire greffer chez Lafitte environ 8 à 10 variétés, dans lesquelles on a des douces, des acidulées et des un peu tanniques. Je parle le moins technique possible pour qu'on puisse comprendre. Le seul objectif, c'était de produire des pommes, de faire des pommes à cidre et relancer le cidre. Voilà. Mais entre 92, on plante en 95, et en attendant que ça pousse, on avait le temps, on continue à chercher. Et entre 95 et 2000, on en a trouvé un peu partout, et on avait comme référence que c'est des vieilles variétés, on pensait qu'elles étaient uniques, et on les ramassait, on les greffait, on les gardait, etc. etc. Dans les années 98 à 2000, il y a eu un premier mouvement en France, où il y a eu une renaissance des croqueurs de pommes, des goûteurs de pommes, enfin des associations comme ça, qui sont partis pour retrouver les vieilles variétés. Là, le ministère a mis un peu de sous, enfin l'INRA et le ministère ont mis un peu de sous pour essayer quelques analyses. On n'était pas prêts, on ne les a pas envoyés. Nous, on a commencé à partir de 2010, à peu près, à envoyer quelques variétés, parce qu'on était un peu sur la défensive, on se disait, mais si on envoie les variétés, elles vont devenir nationales, et après on va perdre notre opportunité, nos opportunités. Mais après on se dit, bon, mais on va, de toute manière, on contrôlera les greffons. Et on a envoyé, à partir des années 2015-2018, jusqu'à 2025, on a envoyé systématiquement tous les ans de l'ordre de 10, 15, 20, 25 plans à analyser. Ces plans sont analysés à l'INRA de Rennes, par l'équipe avec Caroline de Nancy. Et donc, il y a un truc important qu'il faut que vous repériez, numéro MUNC. C'est-à-dire que toutes les analyses de pommes de tous les organismes français ont été envoyées, pas tous, il y en a qui travaillent tout seuls aussi, à l'INRA pour analyse. Et l'INRA les a, au fur et à mesure des arrivées, les a numérotées. Donc, vous avez le code MUNC qui est sur la gauche, qui vous donne des numéros de pommiers. Et si vous voyez le petit numéro, le 26, bon, ça commence au 1, hein, mais comme nous, on n'en a pas envoyé qui sont de ce type-là, on a envoyé, le premier qu'on a envoyé, c'est le numéro qui s'est avéré être le numéro 26 et qui était proposé par, c'est un sous-lutin, proposé par un sous-lutin, et il se serait fait couper en 4 parce que c'était chez lui, que c'était unique et tout, comme tout le monde. C'est le numéro, lui il l'appelait Diondona de Gorail, moi j'avais jamais entendu parler. En fait, cette pomme analysée, alors vous voyez, nombre d'envoyeurs, ça veut dire qu'il y a 4 associations en France qui ont envoyé ça à l'analyse, mais chacun a pu envoyer une ou deux pommes, parce qu'ils n'étaient pas non plus sûrs, parce que une association peut envoyer deux pommes pensant qu'elles sont différentes, alors que c'est la même. Parce que quand il n'y a rien de plus différent qu'une pomme de la même variété sur un vieil arbre et sur un jeune arbre, par exemple. Donc, vous avez une pomme avec des tas de rayures quand elle est petite et une pomme beaucoup plus rouge quand elle est grosse. Et donc, c'est deux pommes pour le commun des mortels. Sauf que la génétique ne pardonne pas. La génétique vous dit, voilà, c'est telle pomme. Et donc, eux, ils avaient envoyé six pommes envoyées par 4 associations. Mais ces pommes-là s'appellent Directeur Le Sage. Nous, on est dans les 4 là. Puisque nous, une des 4, c'est Diondona de Gorail, vous comprenez. Voilà. Donc, il s'avère que celle-là, c'est Directeur Le Sage, et cette pomme est nationale. C'est-à-dire, elle existe un peu dans toute la France. Il peut y avoir une association dans l'Isère, une association en Alsace, une association, nous, ici, Chagartia. Et alors, le voyage des variétés, c'est un truc assez extraordinaire. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ça marche bien, puisqu'il y a des pommes qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres. Bon, et la preuve, la deuxième, qui est toujours sous le titre, Maddalena, la 29, il y a le nombre d'envoyeurs, il y a 13 associations qui l'ont envoyé, et chacun a pu en envoyer presque une ou deux. Il y a 19 pommes qui ont été envoyées, à qui on a dit, non, mais c'est certaines associations. On leur a dit, c'est la même pomme que vous avez envoyée deux fois. Donc, le même code, Et en fait, cette pomme s'appelle, le nom le plus courant, c'est celui qui a été cité sur les 19, par exemple, qui a été cité 7 ou 8 fois. Vous voyez ? Alors, on retient Borowiski et on sait combien d'appellations. Ouais, on peut aussi savoir combien il y a d'appellations. Sur les 13, il y en a 9 qui l'appellent comme ça, donc majoritaire. Et c'est une origine russe. C'est une pomme qui vient de Russie au 18e ou au 19e siècle, qui est là depuis longtemps, hein, et qui est une très bonne pomme, enfin, qui pousse très bien ici, hein, mais ce n'est pas ici. Bordali, la reine Renette, ça c'est une pomme si plus nationale que ça en France, vous ne faites pas. Et il y a donc 40 associations qui l'ont envoyée avec 87 pommes, donc même la reine Renette qui est très caractéristique, on peut la confondre avec une autre, donc on envoie une analyse. Parce que maintenant plus personne ne s'embête à faire des reconnaissances de pommes en mesurant la queue, en comptant le nombre de mamelons, en regardant si l'œil est ouvert, enfin il y a des codes pour ça. Personne ne s'embête, on envoie l'analyse, ça coûte 45 euros quand même, et on a la référence, voilà. Voilà, Beyen Laria, ça vient de l'Acarie, et le gars qui l'a appelé Beyen Laria, c'est parce que c'est une grosse pomme, et que quand ces vaches la mangeaient, ça les étouffait. Alors c'est pour ça qu'elle s'appelle Beyen Laria. En fait, c'est la transparente de Kontzen. Comme quoi. Là aussi, il y a 77 associations. Alors, on va aller un peu vite, là, quand même.
Parce,
alors, il y en a des récentes. Alors, il y en a des très vieilles. Hélisson de Sorange, par exemple, c'est une pomme anglaise qui est assez récente, hein, en France. Mais après, les pommes changent de nom aussi. Hein. Hélisson de Sorange, on n'est pas sûr qu'il n'est pas né en France, passé en Angleterre, pris le nom anglais, revenu en France. Ça, c'est le voyage des plantes. Transparente de Concelles, assez connue. Algagori, Astrakhan Rouge, ça c'est encore une pomme qu'on vend, que les pépiniéristes vendent comme une valeur. Renette Clochard, qui est très bonne. Ah, la 87. 87, elle est là d'ailleurs, c'est une énorme pomme comme ça. Et je pense que c'est une des pommes qui est la plus répandue à l'international. Gloria Mundi, c'est en Espagne, ça s'appelle Gloria Mundi. En Italie. Elle est en Suède, elle est un peu partout. Ça, c'est l'avantage de la génétique, vous pouvez savoir, à condition que les pays aient adhéré à ce système, on peut savoir où elle est ailleurs. Voilà, après, on continue à monter, et on est toujours en nationale française. Hein. Et on arrive à la 170. Alors, deux explications. On pourrait penser, parce que c'est 170, parce que la fin, on est à 10 000, hein, après vous verrez tout à l'heure, mais à 170, on pourrait penser que c'est dans les premiers, donc que c'est pas d'ici. En fait, elle est dans les premières parce que c'est une pomme qui a été repérée par l'INRA au Pays Basque dans les années 50, 1950. L'INRA, à ce moment-là, avait fait des prospections au Pays Basque pour déterminer des variétés de pommes, parce que les pommes à couteau n'étaient pas aussi classifiées que maintenant, pour trouver des pommes à couteau qui pouvaient être conduites assez facilement et surtout qui duraient, c'est-à-dire qu'on pouvait cueillir au mois d'octobre et qu'on pourrait vendre au mois de janvier. Ça, c'était avant qu'ils inventent le froid. Ils avaient inventé, mais ça coûtait trop cher. Donc, c'était une pomme qui a été prospectée pour ça. C'est pour ça qu'elle était très connue de l'INRA. Et quand les analyses ont commencé, l'INRA a commencé par analyser ses propres. C'est pour ça qu'elle a un petit numéro. Et Oustachulia, c'est pareil. Alors, la vraie Oustachulia, parce qu'Oustachulia, il y a 30 pommes, on la verra avec d'autres noms. La vraie Oustachulia, c'est une pomme du mois de d'août, début août, et qui ne devient pas farineuse, qui est très bonne, mais qui s'est un peu perdue, parce qu'elle a été remplacée, en particulier par Transparente de Concel. Voilà, après, on va, au fur et à mesure qu'on va, alors après, Renette Blanche du Canada, ça, regardez le nombre d'envois, le nombre de 100 associations qui l'ont envoyé. Ça, c'est la reine des pommes, hein, par contre. Et celle-là, mais c'est la reine des pommes, en goût, mais c'est pas facile à produire. Voilà, ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, on avance un peu et on arrive à Pesgarate. Alors, Apes Garate ou Apes Chagara ou... Bon, alors, Apes Chagara ou Anisha, c'est la même pomme. Différence. Anisha, il est fort probable, ça c'est, je vous l'avance comme ça, mais je suis à peu près sûr, que Anisha est une pomme qui était inféodée au Pays Basque depuis très 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 longtemps, je pense, mais qui était, en gros, reproduite, et on broyait la pomme, on balançait la pulpe au poulailler, les poules faisaient leur boulot, quelques-unes germaient, et on replantait ça, avec l'espoir de le greffer peut-être un jour ou pas. Et donc, c'est une pomme qui est tellement, comment dire, fixée, variété fixée, qu'on pourrait la semer et on aurait à 90% la même pomme. Alors que toutes les autres, et beaucoup d'autres, sont des pommes. À chaque fleur, il y a un croisement, et chaque pépin est une nouvelle variété. Vous voyez ? Tandis que celle-là, il est fort probable qu'on la multiplie par semis. C'est pour ça qu'on trouve des anichas qui sont gaies comme ça, ou des anichas qui sont beaucoup plus grosses. Et dans la région de Mendionde, en particulier avec la grosse pépinière qu'il a, dans la région de Mendionde, c'est la grosse, comme dans ce pays on fait ça pour eux, la grosse s'appelait Apes Chagara, parce que c'est à lui qu'on donnait le plus grosse. Voilà. Alors, on continue. Hein, je prends trop de temps?
Oui.
Oui, je vais accélérer. Bien, on continue. Allez, pousse un peu. Alors, au fur et à mesure. Attends, au fur et à mesure. Alors, il y en a quand même quelques-unes. Granny Smith, voilà. Alors, on en a trouvé quelques-unes qu'on a envoyées à cet art. La Granny Smith, j'étais pas sûr, mais bon, on l'a envoyée à l'analyse. Et Granny Smith, qui a été inventée par une dame australienne, qui est devenue la pomme verte que tout le monde achète, qui est horrible, mais bon, passons. Voilà, Doulounia. Alors, Doulounia, qui est présentée du côté d'Espelette comme la pomme très locale, en fait, ça s'appelle Jacques Lebel, c'est national. Donc, la génétique ne pardonne pas. Hein. Si vous faites un titre de gloire en disant « je connais tout » et tout ça, t'as pas bref. La génétique vous met à votre niveau en vous disant « non, mon vieux, ça, c'est pas une pomme de chez toi », etc. Et donc, on va essayer de descendre. On arrive quand même, 855 par exemple, Minchuli. Alors, Minchuli, on l'a envoyé en analyse un peu tard. Elle existe en Soule et elle existait ici. Et alors pourquoi elle est 855? Parce que en Soule, le conservatoire d'Aquitaine l'avait eu au tout début des analyses, dans les années 2018 par là. Donc, mais elle est de là. Par contre, Galcetta Gori, alors il peut y avoir des Galcetta Gori, Landaboulou, Nego Gorieta, il y en a une en Soule, une en Basse-Navarre et une presque en Labou. Et donc, vous avez le. Elle est nationale, mais tout en étant que pyrénéenne. Hein. Elle n'existe pas en France, elle reste à la France. Rainette grise de Saint-Onge, ça, elle est très très présente au Pays Basque, parce que c'est une rainette qui tenait du mois de novembre jusqu'au mois d'avril presque. C'est une petite grise, petite un peu rugueuse, et qui devient un peu jaune en mûrissant. C'est une très bonne pomme. Elle est localisée, mais elle n'est pas de là. Alors, la reine d'Angleterre, Mandoboulois. Ah, hop, on arrive. Mandoboulois. Mandoboulois, c'est une douce labourdine. Donc, elle est plutôt Espelette-Urugne par là. Parce qu'on a quand même essayé de se demander, quand on faisait des cueillettes, d'où venait. Parce qu'on avait quand même, a priori, même au niveau du Pays Basque, on fait de plus en plus petit, mais c'est pas grave. L'intention de faire du local. C'est-à-dire que, à notre avis, à ce moment-là, quand on faisait ces recherches, le cidre de Basse-Navarre n'était pas tout à fait le même que celui de Labour. Voilà. On part avec un parti pris. Mais donc, pour étayer un jour, peut-être qu'on aura besoin, on garde un œil sur l'origine des plans qu'on a eus. Si c'est sous le thym, c'est sous le thym. Si c'est Banavaré, c'est Banavaré. Après, on en fera, je ne sais pas ce qu'on en fera. Alors, par contre, voilà, on descend là, l'Andibaré. Alors, il y a des trucs très, très particuliers. L'Andibaré, c'est une pomme. La vraie mort, maintenant, on aura du mal à le retrouver, mais on a des greffons. On lui a donné un nom, cidre de 200 ans, parce qu'il y a une autre association qui l'a envoyé, une autre association qui l'a envoyé qui vient du Nord. Voilà. Et donc, il appelle le cidre de 200 ans. Est-ce que c'est d'abord là-bas ou d'abord ici, on ne sait pas. Mais bon, on l'a toujours. Et on l'a mis en masque parce que Alain Nivaré, il a appris le masque. Mugagori, ça c'est que Arkang. Non, c'est que Muguer. Ça s'appelle Mugagori parce qu'elle est de Muguer. Negugori en Soule. Chomin dans une collection qu'on vient de rentrer il n'y a pas très longtemps. Ou Pachi ou Alain. C'est un des deux qui a sorti. Et on continue. Alors, Rasau, qui s'appelle en fait, c'est une mauvaise écriture, c'est Cachao. Cachao, c'est une maison de Barcus. Mais Cachao, il y en a plusieurs dans la nature. Donc là, on l'a réanalysé, et celle-là, on l'a cueillie devant la maison, sur le pommier qui est toujours vivant. Donc, La vieille, elle a été contente de nous le dire. Onomocha. Onomocha, c'est une douce amère de Bidaraï et un peu aux alentours de Cambo, Asparin, Espelette, là. Ça, c'était les producteurs de cidre vers Cambo. Algachuri et Amacho, c'est deux. Une de Itsasu et une de Barvos. Bon, on va continuer comme ça. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, au fur et à mesure qu'on monte dans les numéros, ça veut dire qu'on est de moins en moins nombreux à l'avoir envoyé. Souvent, quand on est deux, c'est le Conservatoire d'Aquitaine qui l'avait envoyé. Mais comme nous, on l'a renvoyé, on savait à peu près que c'était ça, mais on voulait être sûr. Parce que, comme le Conservatoire d'Aquitaine a un peu vécu et a eu des vicissitudes, c'est pas sûr qu'on pourra retrouver dans leurs collections qui sont énormes, assez de suivi pour retrouver la même variété, en gros. Et donc on s'est dit, on va la greffer tant que c'est vivant encore à Barcus, elle vient de Barcus.
Et Asalo, Asao, en fait, c'est Asalo, qui est prononcé.
Oui, oui, mais eux ils disent Asao.
Alors. Ça vient de Soul également, mais c'est le frère de Jean-Pierre Rollard-Horry qui avait envoyé ça au Conservatoire d'Aquitaine
oui,
il y a 30 ans.
Lui il l'avait envoyé, mais.
Asao.
Asao. Les Souletés ils disent pas Asalo, ils disent Asao. Et là-bas, un conservatoire, c'est à Assao, donc on a gardé, on n'a pas toujours corrigé. Gorilla Satia, c'est une pomme un peu bec de lièvre rouge. Verdiloun, alors ça c'est une autre mamoula qu'on a retrouvée à Macaï, là, il y a 2 ans. Après, je vous expliquerai d'autres choses. Anchotegori ou Dacogoria, ça se trouve en Soule, ça se trouve à Espelette, et on en trouve étonnamment dans 3 endroits du Pays Basque. C'est une très bonne pomme, c'est plutôt une pomme à couteau. Pachko, c'est une. Alors, je vous ferai un truc groupé, Pachko et tout ça. Bon, on continue parce qu'on en a pas trop beaucoup. Oui, alors, donc. Ah oui, la passe vite, on va faire que les Basques après. Parce qu'on a la deuxième fiche. Pachko, c'est une pomme de Pachkonia, et donc on l'a retrouvée aussi à Mardos, donc c'est une pomme, enfin je vous parlerai des pommes plus tard, enfin on verra quand on les analysera. Et pour des gorilles, les bouchagars, tac tac, bon voilà. Donc il y a des vraies valeurs qu'on a retrouvées, parce que, on verra tout à l'heure, on les a analysées autrement. Par exemple, à Rangori, c'est perdu, il n'y en a presque plus. Gordingori Cherry, ça on en a, parce qu'il existe en plusieurs exemplaires. Une très 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 bonne pomme, c'est Bourdine, Mugashuli, celle-là c'est une vraie valeur. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on descend dans les chiffres, on est de plus en plus seul à avoir envoyé. Et les derniers, on continue, vas-y. Espalchuli, Kalicha, tout ça, on est que les seuls à les avoir envoyés, sauf. Alors, Panchotevelsa, Muturbels, Urdimbels, en fait, pour être sûr, on l'appelle Muturbels. C'est une pomme d'Espelette qu'on a appelée à un moment donné Mokobels, mais qui, comme ça prêtait confusion, on a décidé de l'appeler Muturbels. Mais bon, c'est pareil. Le numéro étant la seule référence. La vraie valeur, c'est le numéro MUNC. On sait, si on veut tel type de pomme, on se réfère au numéro MUNC, quel que soit le nom, on se réfère. Iluadar, seule pomme existant en Soule chez Oki. Gorihuale, Mishkandi, maison Mishkandi en Soule, et de l'autre côté du Kodoshkish, Waldia. Donc là, il y a des pommes qui ont navigué entre la Soule et la Vassanavar, mais pas beaucoup. Voilà, après tu peux continuer, Nigukua, il y en a là-bas. Et là, on arrive. Les dernières. Continue, à partir de Petrel, si tu veux. À partir de Petrel, c'est 2 collections qu'on a récupérées l'an dernier, une chez Alain Bourda et l'autre chez Pachi Galaté, parce qu'ils les avaient, mais pas analysées, donc on les a piquées chez eux, avec leur bon vouloir, et on les a envoyées à l'analyse. Donc il se trouve que les 12 ou 13 qui sont venus de chez Alain et les 12 ou 13 qui sont venus de chez Pachi sont uniques. On est les seuls à les avoir envoyés, et on les a envoyés en exemplaire. Donc c'est vraiment des pommes de là. Donc c'est pour ça qu'on les met. Voilà. On passe à la page suivante.
Deuxième. Alors, ça, Gabriel.
Oui. Ah oui, alors, tout ça sort de l'engin comme ça. Vous voyez, si quelqu'un veut a une passion de bénédictin, voilà comment ça se présente, ça. Enfin, c'est un fichier, mais bon. On l'a fait imprimer parce que ça peut servir. Là, je ne sais pas. Il y a 11 000 références. Et de toutes les pommes, de Suède, de Tchéquie, de...
Monde quoi.
Mais pas tous les pays. Par exemple, en Espagne, on a des soucis parce qu'il y a des provinces qui les ont envoyées à l'INRA, mais il y a des provinces qui ne les ont pas envoyées. Donc il y a l'UPNA Navarre, on a c'est là, mais on n'a pas la Guipuscoa, on n'a pas le Biscay, on n'a pas la Navarre. Parce que c'est Necker qui a fait. Et ce serait bien qu'on... Ils l'ont envoyé au Restauraso. Et ils l'y verrissent. Oui. C'est sûr. C'est bien. On avance. On se fait pas chier. Là, je regarde Bidegain Berry. Je suppose qu'il a, le Pachi, ou je sais pas qui c'est toi, ou Pachi. Pachi, il a trouvé Bidegain Berry.
Petrel, c'est
voilà, donc. Mais Petrel, il y avait d'autres gens qui l'appelaient comme ça déjà. Ou c'est toi.
La maison où je.
Voilà. Donc. Si tu veux, le nom, c'est, il peut y avoir plusieurs noms, c'est pas le problème. Le seul truc, la référence, c'est le numéro VUC. Et là, tu as les petites barres là qui te disent c'est ça ou c'est pas ça. Deuxième tableau. Pardon. Oui, mais c'est très compliqué. Ce qui a un nom, c'est très compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que quand je faisais prospection, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait 4 pommiers. Tu allais chez lui, tu lui demandais, est-ce que tu as Oustagori? Ouais, c'est lui, c'est celui-là. Mais il n'y avait pas de pommes. C'est le troisième, là, c'est sûr. Tu retournais, et Oustagori, qui devait être rouge, c'était une pomme verte. Parce que le gars qui a des pommiers chez lui, souvent, il sait qu'il a 4 pommiers, il sait qu'il y a Oustagori quelque part, mais il ne sait pas si c'est le premier ou le troisième. Enfin, il n'a pas qu'à fixer, tu vois. Et donc, si tu ne peux être sûr que si tu vois, et après tu le numérotes, tu fais un plan, et voilà. C'est un boulot. Bien, alors ça, c'est du coup, il n'y a plus que les vasques là. Donc, c'est là qu'on a, on a la référence des, je pense qu'il y en a 60 maintenant, des variétés qui ne sont que chez nous, enfin, qui sont basques, parce qu'on est les seuls à les avoir envoyées. De tout temps et tout ça. Et voilà. Et vers la fin, on va. Alors, il peut y avoir dans les 4 à Pesgalaté, c'est sûr que le conservatoire l'a envoyé, est venu le chercher, l'INRA est venu chercher. Dans les 4 de Pesgalaté, il peut y avoir des gens venus d'ailleurs qui les ont pris ici. Donc, a priori, c'est d'ici.
C'est Chauvinénia de Sable, c'est le pomme qui est là-bas.
Et si tu veux, Mugagori, elle est à Muguer, elle était morte à Muguer. Enfin, maintenant l'arbre est mort, mais on a son truc. Et le troisième, il y a, nous on en a envoyé 3, donc 3 là. Mais il y a un cultivar que l'INRA avait envoyé, qui était de haute rive ou un truc comme ça, à la limite du très marrant, à la limite du Béarn et du Pays Basque.
Ah bon?
Et un jour, j'ai rencontré... Oui.
Un peu là.
Et un jour, je faisais une expo à Bayonne, je vous la fais courte, j'essaye. Et je rencontre une dame qui me dit, mais je la connais cette pomme, elle est chez moi. Alors je lui dis, mais vous êtes... Oui, je suis de Serein. Oui, mais c'est mon père qui avait amené ça. Et vous étiez d'où, vous? Mais elle était de Villefranche ou de Mouguet. Ah ouais, voilà, donc... Les explications, si on avait le temps de pinailler, mais bon, on s'en fout. Nous, on les a répertoriés, on sait que ça existe. Alors, une particularité quand même, Algachuli et Amacho, c'est la même pomme, mais ce n'est pas la même pomme. C'est-à-dire que quand ce n'est pas la même pomme, le chiffre change, et quand il y a 0,1, ça veut dire qu'ils ont le même code barre, quelque part, sauf un petit détail qui a changé. Mais c'est la même pomme. Mais ils ne peuvent pas dire que c'est la même pomme. Ça, c'est les secrets de la science INRA. Bien, on continue vite fait. Voilà. Donc, plus on descendra, plus on aura... Et plus on, alors, plus on aura des variétés trouvées récemment. Alors peut-être qu'un jour, il y aura d'autres gens qui les enverront aussi à la reconnaissance. Je sais pas, on verra. Vas-y, descend.
Hein?
Descend. Donc on verra les valeurs des pommes tout à l'heure. Vas-y. Bon, après là. Et en particulier, on est en Soule, il y en a 20 qu'on a implantées dans le verger conservatoire de Château à Guéria. Il y a 20 sortes qui sont que de Soule sur les 36 qu'on avait greffées en Soule. Que les souletins nous avaient dit, c'est souletin. Bon, on a greffé. Alors là, on est dans les derniers envoyés, mais là, on n'a que l'analyse génétique. On n'a pas continué, parce qu'une fois que vous avez fait l'analyse génétique de la feuille, si l'arbre est vieux, il faut le restaurer très vite, il faut le regreffer très vite, il faut le suivre pendant 2-3 ans pour pouvoir avoir des pommes, pour pouvoir analyser les pommes. Donc c'est un temps... les gens qui sont pressés, il ne faut pas nous demander. Voilà, donc tout ça... Oui.
L'autre tableau ?
Oui, on passe à l'autre. Alors, donc ça, là, il y en a, à part 2 ou 3 qui ne sont, pas des pommes à couteau, ni des pommes à cidre, qui sont des pommes de sauvages, qu'on a été chercher à la limite des porte-greffes, qu'on a repérées en forêt, qui étaient suffisantes, parce que dans les bois d'Asparin, par exemple, ou du Staritz, il y a du pommier sauvage en pagaille. Un peu peut-être hybride, mais bon. Voilà. Et donc, on en a envoyé à l'analyse quelques-uns pour savoir leur valeur, leur situation génétique. Bon, à la suite de cette analyse génétique, donc on sait qui sont les pommes et on les a numérotées. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut, ces pommes ? Donc, on récolte les pommes et on les envoie à l'analyse au laboratoire de Fray Solo, qui peut nous faire ce qu'on veut, à la limite. Nous, ce qui nous intéresse pour classer les pommes... Alors, quel que soit l'usage par ailleurs, c'est savoir la valeur. Le choix de la variété pour un usage dépend du degré technique de celui qui utilise. Donc, par contre, la pomme, en gros, vous avez le pH, c'est-à-dire l'acidité, la quantité d'acide qu'il y a dans la pomme, et le pH de la pomme. Les pommes acides, très acides, sont entre 3, pH 3 à 3,2. Après, vous avez 3,2, 3,5, c'est encore acide, mais pas moyennement acide. Et 3,5 à 4, ça commence déjà, vous sentez le sucre. Voilà. On a utilisé des termes entre parenthèses parce que ça, c'est pas très scientifique, c'est de l'interprétation. Mais il faut interpréter un peu. Et au-delà de 4, vous n'en avez pas beaucoup. Le pH 4, c'est les pommes, c'est du son. C'est quand vous mangez ça ou quand vous goûtez ça, c'est pas bon à manger. Vous n'en mangerez pas. Après, il y a le tannin, les polyphénols, ou tannin. C'est-à-dire, c'est des produits qui sont, il y en a un certain nombre, qui sont souvent aux alentours de la peau et qui donnent à la pomme, comment vous dire, sa corpulence et quelque part sa couleur. Quand vous avez une peau, une chair blanche, si vous l'oxydez, quand ça devient marron, dès que c'est oxydé, quand vous croquez une pomme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tannin, comme ça. Et alors... Pourquoi on fait ces analyses ? Parce que c'est d'abord l'usage cidre. Les cidres, ici, alors je m'aventure un peu, parce qu'il y a des oenologues qui ne sont pas d'accord, là. Les cidres, ici, sont, comme ce pays adore, acides, bichibichia. Et donc, ça, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on a des pommes comme ça. Alors, est-ce qu'on a... des pommes comme ça, parce qu'on les a choisies pour avoir ce cidre, ou est-ce qu'on a des cidres acides, parce que ces pommes étaient déjà là. Je n'ai pas, l'œuf ou la poule, ça ne m'étonne pas. En tout cas, il se trouve que ce pays, entre le tchakoli, le cidre, etc., on aime ça. Et donc, peut-être que ce n'est pas un hasard. Voilà, on verra. En tout cas, le côté tannique, on a très peu de pommes très tanniques. Alors, dans le cidre, En gros, les gens du Nord, normands et bretons, qui étaient très vendeurs sur Paris, étaient obligés, parce que Paris demandait du sucre, de faire des cidres avec des pommes sucrées, donc douces, voyez, et sans acidité. Voilà. Donc en Normandie, en Bretagne, vous avez beaucoup, beaucoup de variétés douces, douces amères. Les acidulés ou les aigres, ils les regardent avec des yeux comme ça. Les amères, ils les gardent. Alors ils ont des douces amères et des amères. Les aigres, en Normandie, en Bretagne peut-être un peu, dans certains coins de Bretagne. Parce que l'amertume, ils en avaient besoin, parce que pour vendre le cidre à Paris, je ne disais pas qu'il soit sucré, il fallait qu'il soit antiseptique. Il fallait pas que les champignons rentrent dedans, ou les bactéries. Donc la tannine, le tannin, les polyphénols, protègent le cidre. Les cidres acides, ils sont très facilement très acides, très vite. Ils deviennent très vite vinaigre. Les cidres moins acides et un peu tannin, donc nos pommes qui étaient pour la consommation assez rapide et immédiate, on n'avait pas besoin de tannin. Donc dans nos variétés de pommes, on a des tannins, mais on n'en a pas beaucoup. Voilà. Donc on verra, là vous avez l'analyse par ordre alphabétique. C'est plus sympathique que l'autre. Alors regardez, par exemple, à Hirschhout, acidulée, parce que elle n'est pas, elle est quand même, oui, pour le titre en haut. Voilà. Elle a beaucoup de sucre, elle n'a pas beaucoup d'acide, si tu veux, parce qu'elle est 3, 5, 4. Et elle est quand même pas douce, elle est quand même un peu, on peut la manger, elle n'est pas écœurante, voilà, comme référence, mais elle a du tannin polyphénol. Donc c'est pas une pomme que vous mangerez souvent. Par contre, elle est intéressante parce qu'elle fait du degré, elle va faire du degré, donc le cidre macho, et elle va se conserver très bien. Et ça va faire un cidre pas clair. Parce que le tannin colore. Donc c'est vrai que si quelqu'un veut faire du cidre qui actuellement est à la mode, qui est un peu light, clair, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Par contre, si quelqu'un a un marché à l'export ou un truc comme ça, et qu'il faut que le cidre voyage, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Mais voilà. Donc tous ces trucs-là peuvent être interprétés un peu par le cidrier qui après choisira ses valeurs. Encore faut-il que ce soit automatique. C'est-à-dire que vous plantez 500 pommiers de celui-là et il vous produit la moitié des 250 que vous avez à côté, vous n'aurez pas les proportions idéales. Donc c'est quand même, on a entendu ça mardi, mais c'est vrai, le métier de producteur de pommes, c'est un métier d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a des risques. C'est-à-dire que tous les tableaux qu'on voudra, et si on est un peu concurrencé par le changement de temps, des choses comme ça, tout est vrai, mais tout est discutable. Voilà, je vous le dis. Avant d'aller plus loin.
Juste la dernière colonne, si tu peux expliquer.
Alors, on a essayé quand même pour que les gens n'aient pas 40 tableaux. Donc on a mis une interprétation. Pour le commun des mortels presque. Par exemple, à Hirschhout, on a mis, c'est acidulé, mais c'est très tannique. Donc, en fait, c'est pas bon. Les grilles sont pas bons. Amacho, acide, tannique. C'est supportable. Voilà. Très acide tannique, voilà. Alors, très acide tannique, Apetchagara. Apetchagara a un peu de tannin, mais est sauvé par son énorme acidité. Quand vous mangez Apetchagara, vous n'avez que l'acidité en bouche. Vous ne sentez pas le tannin. C'est parce qu'il est très acide. Donc, c'est bon à manger. Par contre, c'est bon pour faire des gelées, c'est bon pour faire plein de trucs. Et paradoxalement, c'est pas assez tannique. C'est pas très tannique, donc c'est pas assez tannique pour pouvoir marquer un cidre. Ça fera un cidre toujours clair, Anisha. C'est bon, mais c'est un cidre à boire vite. Bon, tout ça, on pourrait les interpréter tous comme ça.
Explique le trait proposé.
Ah, alors, le code commun, comme vous l'a rappelé, parce que ça payait pas de, ça coûtait pas cher. Et après, on a fait un truc, on a dit, bon, est-ce que dans nos proposition, parce qu'à partir du moment où on a eu un peu ça, on a su un peu que les gens venaient nous voir pour nous demander qu'ils avaient un projet de pomme, et il leur fallait des pommiers. Là, vous n'êtes pas dans la merde, parce que vous ne savez pas ce qu'il va faire, s'il va faire du jus, du cidre, du couteau, Oui, mais je veux des pommiers. Oui. Alors, comment il faut faire? Il faut faire un panel de plants que vous lui proposez. Il faut les produire, que vous lui proposez, avec lesquels il pourra se débrouiller à faire un peu tout. Ou changer de fusil d'épaule s'il se trompe. Voilà. Donc, dans les variétés qui nous paraissent à nous fantastiques, comme on ne sait pas comment ils vont être produits, c'est pas sûr qu'on va les proposer. Donc, quand on a quelqu'un qui vient, on fait produire, chaque fois on prend un truc, on se dit cette année on va prendre 20 variétés. Et 20 variétés, toujours dans le même pourcentage, où on met les acidulés, 60%, et les douces, 40%. Et on fait ce panel pour deux saisons. La première saison de récolte, où on propose acidulés et doux, voilà, 60-40, et la deuxième saison, avec le même truc. Alors ça fait des tableaux à 4 entrées. Donc les 20 variétés, on les fait par an, quoi. Dans une année, on ne propose pas plus de 20 variétés. Donc il y a des variétés qu'on a proposées, qui sont très proposées. Apichagara, tout le monde en veut, déjà, et parce que c'est une valeur sûre, donc on a mis très proposées. Arangori, on l'a proposé à certains. Mais, par exemple, quand ils plantaient 300 pommiers, ils étaient par 20 ou par 10. En complément d'une variété qui mûrissait à peu près en même temps, au cas où en alternance, un produirait pas l'autre, des choses comme ça. Donc, quand on voit... Alors, c'est pour récapituler ça. Peu proposé, ça veut dire qu'on l'a en collection, à droite et à gauche, mais on l'a pas en grande diffusion. Et aussi parce qu'on n'est pas tellement sûr qu'il est très rustique. On n'a pas assez de recul. Des fois, on ne l'a pas proposé. On se dit, c'est un arboriculteur moyen qui le plante. Est-ce qu'il va le traiter assez, le bien, pour pouvoir être satisfait? Si on est sûr que le gars va faire très bien le boulot, on peut lui proposer des spécimens un peu sophistiqués. Mais si on n'est pas sûr et qu'il va planter et récolter dans 10 ans, là, il vaut mieux proposer la grosse cavalerie. Donc, nos enjeux sont toujours comme ça. C'est un peu risqué, mais bon... Si quelqu'un a une autre solution, on est preneur.
Passez votre tableau.
Alors, peut proposer. Alors, vous allez proposer. Ginkgo Shagara. On en reviendra tout à l'heure.
Oui.
Oui, alors là, on les a regroupés.
Voilà.
Vous voyez? Donc, on a regroupé les botaniques acides. Vous voyez? Acides, botaniques. Alors, ça, ceux-là, c'est vraiment les pommes passe-partout en goût, en consommation. C'est des pommes qui sont juste, elles sont pas douces, elles sont juste un peu acides, et elles sont peu tanniques, donc il n'y a pas d'amertume au fond. Donc c'est des pommes qui passent très très bien. Mouturbelz, là, c'est la pomme d'Espelette, là, elle est très bonne. Oconicé, Elie, c'est la même, Elie Shagara, c'est une très bonne pomme. Je connais personne qui m'a dit, Elie n'est pas bon. Bon, Renette Dumas, on l'a laissé parce qu'elle est très très présente au Pays Basque dans les jardins, c'est Gordinchulia, il l'appelait comme ça. Donc, Iluada, alors Ginkgo Shagara, c'est la, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la 170 dans le code de Buc.
C'est une pomme qui prend un peu le carpocalce, elle est intéressante pour ça.
Ah oui, mais attends, ça c'est autre chose. Alors, Ginkgo Shagara, ça fait partie du groupe de pommes. Il y a Eli, Ginkgo, Pachko, enfin, il y en a 4 ou 5 qui sont des pommes de mois d'octobre qui ont une peau exceptionnellement dure, qui sont dans cette rubrique donc acide mais pas avec du sucre, et c'est des pommes qui tiennent longtemps sans artifice. Elie Shagara, c'était ça, son explication. Elie Shagara, qui est du même type que Ginkgo, mais qui est différente. C'est des pommes qu'on gardait, parce qu'à l'époque, pour les malades, en hiver, il n'y avait pas d'orange ni de banane, il fallait manger des pommes. Parce que le seul truc. Alors, celles-là, elles tiennent partout. Bon, si vous la laissez par terre, il y en a d'autres qui vont s'en charger. Mais si vous la cueillez, que vous la mettez sur la paille, dans une étagère, vous allez la manger très tard. Il y en a 3 ou 4 comme ça au Pays Basque. Ça, c'est des valeurs à signaler. Il y en a une autre qui s'appelle Gordinchulli. Moi, j'ai eu cueilli des Gordinchulli au 24 février sur l'arbre. Donc, ça veut dire que les feuilles tombent. et que c'est exceptionnel vendu. Voilà. Donc, on les a classés comme ça pour faciliter le choix éventuellement. Là, les gens, ils savent que s'ils veulent des pommes acides ou tanniques, ou acides tanniques, il y a l'explication là. Voilà. C'est un truc de discussion. C'est un topo où on pourra discuter avec celui qui choisit. Qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est la pomme au couteau, tape plutôt sur ce type de pomme.
Mais vous les considérez comme des pommes couteaux, celles-là?
Alors, moi, toutes les pommes peuvent se manger. Toutes. Oui, il n'y a pas de mauvaises pommes. Bon, maintenant, les goûts, on ne peut pas savoir. Les gens qui aiment Granny Smith, c'est une pomme, à mon avis, assez horrible. Bon, il y a des gens qui ne rêvent que de ça. Bon, voilà. Et par contre, des gens qui vous diront que l'île n'est pas bonne, ça n'existe pas. Donc, c'est ça le truc. Et les gens qui vous diront que Mourtourbel, c'est pas bon, ça n'existe pas. Que Anisha n'est pas bon, ça n'existe pas.
C'est la conclusion.
Oui. Alors, c'est une interprétation de qui diffère un peu de la classification officielle. Il y a des classifications technologiques où on vous dit. Telle pomme qui a telle analyse acidité et telle analyse truc, c'est plam. C'est un truc à quatre entrées, c'est comme ça. Mais c'est pas par là. Là, on peut discuter de ce ressenti de voilà. Donc on a un peu interprété, mais si on pourrait refaire Tavernier, c'est un chercheur français du 18e ou tout ça qui avait fait une classification. Avec les valeurs d'analyse de toutes les pommes, en les classant en douce amère, amère, et voilà. Bon, alors, pour discuter du choix des variétés, parce que c'est ça qui est important, c'est la valeur organoleptique, hein. On est encore que dans l'organoleptique, parce que dans le choix, il y a d'autres critères sur lesquels on va passer. Donc, après, on les a toutes choisies locales. Bien, alors là, c'est une tentative de technicisation de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, par exemple, on prend Aïrshout, avec le peu de recul qu'on a, parce qu'Aïrshout, on la cultive depuis 7 ans. Elle est plantée à Garoua depuis 7 ans. Et on peut dire qu'en rusticité, elle ne pète pas le feu. C'est moyen. Et elle était déjà, quand on l'a prise, elle vient d'ailleurs. Elle était dressée comme ça, Aïrshout. Et hier déjà, le pied n'était pas très vieux, mais il était un peu malingre et tout ça. On l'a greffé quand même, et il s'est trouvé que le jeune, avec un porte-greffe puissant, c'est pas ça. Les feuilles sont un peu, elles sont pas vert franc, elles sont un peu blanches, elles prennent un peu d'oïdium, elles n'ont pas trop de tavelure, mais c'est moyen, quoi. Donc, quand il y a rusticité moyenne, ça veut dire, si t'es pas un bon arboriculteur, abstiens-toi. C'est ça le message. Si tu veux planter ton pommier et cueillir des pommes, c'est pas forcément ça que tu dois planter. Parce que tu auras un bel arbre, mais pas de pommes. Bon, voilà.
Le titre.
Le titre en haut.
Le titre.
Voilà. Alors, ma rapidité de mise à fruit, quand c'est faible, ça veut dire qu'au bout de 7 ans, cette année, on est content d'avoir quelques fruits. C'est un peu dur. Productivité, il n'y en a que quelques-uns. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait. Il n'y en a que quelques-uns et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Moyen. Port dressé, alors ça c'est pour ceux qui ont des compétences en taille, ou qui n'en ont pas, ou qui veulent en apprendre. Port dressé, ça veut dire que c'est un arbre qui fait un axe et des branches qui montent. Ça a une importance pour la conduite. Je ne vais pas vous la faire ici parce qu'on est là 3h30 plus tard, et encore vous n'aurez pas tout compris. Ça a une importance, donc c'est à savoir. Alors, la pomme suivante, Amacho, elle est rustique, elle est vert franc, elle pète le feu, elle n'a aucun souci. Rapidité de mise à fruit, c'est moyen, c'est pas mal, il y a eu des fruits déjà dessus, avant 7 ans. Productivité, il y a des beaux fruits qui ne sont pas influencés par le climat, le sol, c'est toujours les mêmes fruits. Et le porc, il est dressé, il a un axe et il fait des branches latérales comme ça. Un peu ouvert. C'est plus facile à mener que celui-là. Mais c'est pas gagné quand même. Mais bon, c'est plus facile. C'est une indication pour celui qui voudra utiliser celui-là en nature, ou qui voudra, qui se targuera de dire « moi je contrôle tous les bourgeons partout, le nombre de fruits, etc. » Ça existe, bravo. Donc, il faut lui donner une indication. Il vaut mieux qu'il prenne celui-là quand même que l'autre. Et après, il y a la date... Alors, les floraisons. Les floraisons, c'est compliqué. Les floraisons dans ce pays, c'est compliqué de les déterminer par des dates. Donc, on a fait des reprises de floraisons sur 4 ou 5 ans. Et on s'est dit, attends, une année c'est le 25 mars, et la même pomme c'est le 15 avril. Donc on a regroupé, premier groupe, c'est ceux qui sont les premiers fleuris du 25 mars au 10 avril, du 10 avril au 20 avril, du 20 avril au 1er mai, et du 1er mai au 10 mai. Voilà, 1, 2, 3, 4 groupes. Pourquoi ? Parce que les gens qui se chargeront la tête pour pouvoir faire fleurir des pommes en même temps, parce qu'ils sont persuadés qu'il faut à tout prix que les pommes fleurissent en même temps dans ce pays. Donc, ils feront ça. Mais c'est important sans être important, parce que la fin d'une première floraison peut rattraper le début de l'autre. Donc, et puis ça change tous les ans. La floraison, c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut le mettre, parce que ça fait partie des critères de choix des variétés, au même titre que la rusticité, etc. Voilà. Fructification, ça c'est à peu près les dates de récolte. Alors les dates de récolte, c'est très compliqué. Dates de récolte ne sont pas influencées seulement par le changement climatique, les dates de récolte sont influencées par la taille et par le traitement sanitaire et par la fertilisation.
Non.
Le climat, on arrive à peu près. Non, le problème, c'est un arbre qui se débrouille tout seul par rapport à un arbre qui est super aidé par des traitements et tout ça, c'est deux dates différentes. Un arbre qui se débrouille tout seul, qui n'a aucun traitement, il va lâcher la moitié de ses fruits maintenant, alors qu'il est mûr dans 15 jours. Vous avez Anisha, qui cette année, pourtant on est en avance, vous avez Anisha où il y a des pommes par terre, beaucoup, mais il y en a qui sont dessus et qui ne sont pas très très mûrs, qui ne sont pas encore repassés. Donc, il y aura de la nicha, même si tout avance, il y aura de la nicha un peu. Voilà. Donc, suivant les expositions, la même variété, l'exposition, le traitement, la fertilisation, bon, l'exposition, c'est l'eau aussi, hein, mais bon, voilà, ça peut varier de 10-15 jours. Et puis, le changement de climat, sans doute. Nos désordres climatiques, ça doit influer aussi.
Il faut finir.
Oui, bon. Voilà. Et donc, après, il y a des variétés où vous n'avez rien, parce que, sauf pas proposé, parce qu'on les a découvertes il n'y a pas très longtemps, quoi. Donc voilà, on a passé tout le truc là, mais on les capte, on les regarde. Oui, mais bon, mais tu auras des définitions académiques. Parce que les gens qui font des goûtages sont formatés, sont formés. On leur dit, tel type de goûter, ils vont te donner un langage de truc. Toi, tu n'as pas forcément ni l'éducation, ni... Ça, c'est comme le vin. C'est, voilà. C'est... Bon. Globalement, une bonne pomme est bonne pour tout. Et alors, en sucre, toutes les pommes sont assez sucrées. Si elles sont mûres. Le truc, c'est l'acidité. Tu supportes ou pas le pistello sur la langue. Alors, il y a des civilisations où c'est non. Mais maintenant, on est aidé parce que Coca-Cola a beaucoup fait pour accentuer l'acidité et le sucre. Donc, plein de gens commencent à aimer ce genre de truc. Pardon, je ne vais pas dire merci à Coca-Cola. Bon, en tout cas, ça l'acidité. Par contre, le tanin, c'est compliqué à jouer avec. Hein. S'il y a du tanin, ça, personne n'aime. Parce que c'est un peu astringent, ça reste en bouche.
Et... Le tanin, on a le cidre. Avec le temps, si on laisse vieillir, ça a tendance à s'estomper. Hein.
Dans le cidre. Peut-être. Oui, mais comme dans les vins. Si tu... Mais à la différence que tu n'as pas assez de degrés pour pouvoir garder les autres valeurs, le cidre vieux, il va peiner ailleurs. Et plus le tanin, il ne va peut-être pas baisser. C'est ça que... Enfin, je ne connais pas grand monde qui garde des cidres au-delà de 2-3 ans. Oui, je goûterai les tiens. Mais non, après ça, on peut discuter. Ça, c'est un autre. Moi, Chagartia, c'est la pomme pour ses valeurs. C'est pas. C'est, même si on a une idée, grosso modo, de cidre d'avenir ou de ce que nous, on pense que ce sera, on n'est pas là-dedans. Le cidre, la fabrication et l'évolution, ça appartient au cidrier. Je ne veux pas dire à l'onologue. Je ne veux pas dire. Au cidrier.
On va ouvrir un temps après de.
Oui, juste avant
le film. Le temps que tu bois un petit coup.
Juste, donc, non, je vais voir après.
Donc, après ce travail, on voulait aussi montrer un début de recherche autour des poires.
Au début.
Parce qu'on, enfin, début. Ça fait un petit moment, mais beaucoup moins que les pommes.
Voilà. Oui, beaucoup moins.
Donc, parce qu'il y a ici des gens qui sont aussi intéressés par les poires.
Voilà, alors trois ans qu'on s'intéresse aux poires. Alors, pour deux raisons. Parce que, bon, les poires, ça, j'adore ça. Et deuxièmement, parce qu'il y a un gars de, je sais pas d'où il est, de côté de Villabona, qui m'a téléphoné, qui s'intéresse à la fabrication, à la production de poirées, et qui me demande si je connaissais des variétés de poires à poirées. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, même pour savoir s'il y a des poires à poirées, il faut chercher les poires. Donc,
c'est du jus de poire.
Le poiré, c'est comme le cidre, mais avec la poire. Voilà. Et en France, c'est beaucoup fabriqué du côté de Normandie et partout par là, le pays de Caux. Mais ils ont là-bas des variétés de poire à poiré. Il y en a 4 ou 5. C'est très, très célèbre. Et donc, un jeune de Bardos me demande, il me faut des poires à poiré aussi. Alors, donc, on a cherché des poires à poiré. C'est un peu compliqué. Parce que les poires à poire de là-bas, dans un climat ici, j'ai peur, parce que la poire, c'est ou ta velure ou pas ta velure. Mais quand il y a ta velure, il y a ta velure. Hein. Et donc, vous restez... Alors, donc on a une maladie qui s'appelle la ta velure. Donc, on s'est dit, ben, on va prospecter. Et donc, on a prospecté, et vous avez les variétés de poire avec le code. Normalement, c'est le code PUNC, d'ailleurs, parce que c'est pire. C'est pas malus. Et donc, voilà. Alors, il y en a quelques-uns qui sont très présents au Pays Basque. Beurré d'Amanlis. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est une très bonne poire. Par contre, c'est une très bonne poire. Et voilà. Et là, on a la liste des fermes où on en a trouvé. Où, voilà, la Boulou, c'est une ferme à Barcus. Balatzegagne, c'est à Saint-Jean-le-Vieux. Voilà. Voilà. Et là, donc, vous avez les premiers... Là aussi, c'est pareil, les premiers chiffres PUNC correspondent à des poires qui sont un peu nationales. Vous voyez, Belle de Bruxelles, par exemple. Elle ne doit pas être de Belge, hein, elle est française. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Vous voyez. Et après, donc, vous avez... Plus on descendra, voilà aussi, c'est pareil. Plus on descendra et plus on trouvera des variétés un peu d'ici. Et il n'y en a pas beaucoup. Autant en pommes, sur les 160 qu'on a envoyés, il y en a à peu près 70 qui ne sont que de là. Autant en poire, sur les 120 qu'on a envoyés, il n'y en a que 10 qui ne sont que de là. Donc en poire, on est beaucoup moins diversifié ou riche qu'en pommes. Voilà. La pomme, la poire, c'est quand même plutôt... Alors, je vais être un peu trivial. C'est plus un fruit de bourgeois qui se transmettait par le jardin, etc. La pomme, c'est une pomme. Ici, la pomme, c'est un aliment. Ce qui fait dire, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la pomme, on en a depuis juin. On pourrait manger des pommes. Nous, on peut manger des pommes toute l'année avec nos variétés. Et en plus, ça s'articule bien, la première féconde, la deuxième, etc. C'est très bien articulé. Donc, moi j'ai tendance à penser que la pomme ici était un aliment avant d'être un dessert. Et c'est pour ça que, pour ne pas se fatiguer, je pense qu'ils aimaient les goûts un peu lupistello. C'est aussi une autre explication. Mais bon, alors les poires, donc c'est plus compliqué. Parce que là, du coup, c'est compliqué à cueillir aussi. Cette année, je me suis battu, j'ai fait plein de kilomètres, parce que j'arrivais ou trop tôt ou trop tard. La poire était tombée, je ne sais pas exactement la date de maturité. Mais après, là, moi, je suis tout à fait à cheval sur la sensibilité. Alors, on parle sensibilité maladie. Il faut faire un peu la part des choses. Vous avez les pommiers au Pays Basque sont résistants. Je n'ai pas dit insensibles, hein. Résistants. Anisha, par exemple, que tout le monde pense incroyable. Moi, j'ai vu Anisha prendre de l'oïdium une année, je croyais qu'on perdait le verger. Voilà. Donc, on peut avoir des épisodes, parce qu'une souche d'oïdium ou un truc comme ça, voilà, on peut avoir des épisodes. Mais globalement, les locales, celles qui ont survécu, ça fait 2000 ans qu'elles sont là, et qui ont survécu, c'est parce qu'elles avaient la résistance. Voilà. Il n'existe pas de variétés qui ne peuvent pas tomber malades. Ça n'existe pas. Par contre, il y a celles qui tombent malades mais qui s'en sortent. Voilà. Et d'où c'est là qu'il faut. Par contre, il y a des tas d'autres trucs. C'est plus vous les rapprochez, plus vous leur demandez, plus vous les affaiblissez, et plus quand la maladie rentre, ou quand le carpocaps arrive, au départ, quand vous plantez votre verger, il y a 3 générations. 20 ans après, il y en a 6. Parce que vous l'avez alimenté, le carpo, parce que vous l'avez demandé davantage à l'arbre, parce que vous l'avez rapproché, parce qu'il fallait les faire prêts pour avoir le rendement. Je n'irai pas plus loin. Voilà, donc, on discutera après, sauver ou continuer à faire de la pomme au Pays Basque, il faut un peu s'inspirer des vieilles méthodes, je crois, tout en ayant l'aide de la technologie et de la science la plus active, mais du calme sur l'intensification. Voilà.
Vous venez d'entendre Inventaire, analyse et interprétation des vieux pommiers et poiriers du Pays Basque Nord, une conférence de Gabriel Duruti pour l'association Chagartea, enregistrée à Irisari le 11 septembre 2025.